Esprit de conquête, c'est le titre de votre essai numérique qui paraît aujourd'hui aux éditions L'Observatoire dans la collection Le Monde d'après, une analyse de la crise sanitaire que nous traversons et de la manière avec laquelle nous la traversons. Déjà à ce sujet, est-ce que nous sommes à la hauteur ?
Ça dépend de qui on parle avec quand on parle de nous. Moi, ce qui me frappe, c'est que je trouve qu'on est un peu dur, un peu cruel, un peu désobligeant au fond avec les Français. Je trouve que les Français ont traversé cette crise admirablement. On se compare souvent pour se désoler. Et souvent, là, si on se compare, en fait, on s'en sort plutôt très bien, collectivement. Il n'y a pas eu de manifestation contre le déconfinement. Il y a eu une grande discipline collective. Il y a eu beaucoup de responsabilités. Il y a eu des sacrifices qui ont été faits par beaucoup. Il y a eu un dévouement exemplaire de très nombreux citoyens français, évidemment des soignants, mais aussi de beaucoup d'autres. Et je trouve qu'on sort de là en se disant, mais non, en fait, on a été mû par la peur, on a été mû par l'égoïsme, on a été mû par caractère infantile. Moi, je ne crois pas du tout. Je pense qu'en fait, et je crois que c'est l'expérience commune de beaucoup d'entre nous, on n'a pas fait de la résistance depuis notre canapé. On a vraiment fait des efforts pour travailler depuis chez nous, pour continuer à enseigner à nos enfants ce qu'on pouvait leur enseigner dans cette période, pour continuer à prendre soin des gens les plus fragiles.
Vous dressez d'ailleurs cet éloge des Français, mais on pourrait vous reprocher, Sylvain Faure, une vision naïve, une candeur, alors que les fractures sont béantes et que les tensions grandissantes au sein de la société française.
Mais c'est ça qui est frappant, c'est que on met toujours le doigt sur le fait que la société française est fracturée, qu'il y a de la dissension, qu'il y a de la défiance. C'est vrai. Mais d'un autre côté, si à chaque fois que les Français font quelque chose de bien, on leur dit qu'en fait c'était pas bien, et qu'on a cette espèce de pratique professorale consistant à dire à un élève qui a 15 sur 20 peut mieux faire, on va jamais s'en sortir. Autrement dit, on a traversé un moment assez républicain au fond, de solidarité collective, d'entente collective autour d'un enjeu national et même international, et on sort de là en se disant, mais en fait, vous savez quoi, on est juste des enfants qui nous sommes laissés prendre
par la main. Mais êtes-vous sûr de votre constat ? L'historien et philosophe Marcel Gaucher estime que nous ne jouons plus dans la cour des grands, que la France est déclassée. Cette crise sanitaire, selon lui, en a été un cruel révélateur. N'est-ce pas là la vraie réalité ?
Non, je ne suis pas d'accord avec Marcel Gaucher. Je ne pense pas que la France ne joue plus dans la cour des grands. Je pense que ce qui s'est passé, ce qu'on a constaté pendant cette crise, c'est que les Français sont un peuple responsable, mature et lucide. En revanche, ce qui fonde la puissance française depuis des siècles, qui est l'administration française, l'État français. Oui, là, on a un énorme problème.
La bureaucratie, la technocratie.
La bureaucratie plus que la technocratie. C'est la bureaucratie française.
On joue sur les mots, là.
Non, la technocratie, c'est au fond la structure fêtière de tout ça. Mais appelons ça comme vous voudrez, technocratie, bureaucratie. Là, on a un énorme problème. Parce qu'en réalité, les Français ont délégué une très grande partie de cette responsabilité collective à l'administration française, à l'État français. Et cet État français, effectivement, du jour au lendemain, on s'est rendu compte qu'un certain nombre des missions qui lui étaient confiées n'étaient pas accomplies.
Mais n'est-ce pas le politique qui a plutôt laissé ses responsabilités à l'administration ? Est-ce que l'administration n'a pas phagocyté le responsable politique ? Et dans ce cas-là, c'est aussi de sa responsabilité au plus haut sommet de l'État.
Absolument. C'est un problème considérable en France dont je pense, j'espère en tout cas, que nos concitoyens maintenant sont conscients. C'est que...
Les citoyens sont conscients, mais est-ce que les politiques le sont ?
Je crois qu'ils le sont. Au fond, vous savez, c'est cette grande dualité qui existe depuis maintenant, dont les politiques ont conscience depuis pas mal d'années, quand ils parlent de l'État profond. Vous savez, c'est le fait que beaucoup de politiques font le constat qu'ils prennent des mesures, ils font des réformes, mais en réalité, ça ne parvient pas au terrain, parce que les échelons administratifs qui séparent l'action politique de la mise en œuvre des politiques voulues par eux, et qui sont élus, qui sont légitimes, cette mise en œuvre ne se fait pas, parce que ça se bloque à un certain nombre d'échelons. Autrement dit, nous avons aujourd'hui, moi j'ai absolument pas peur de le dire, nous avons aujourd'hui une administration qui n'hésite pas à jouer contre le politique.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Une fois qu'on a fait politique. Le diagnostic et le constat qui est partagé, que fait-on ?
Premièrement, je pense que il faudrait peut-être se poser une question sur les niveaux de responsabilité qu'on a délégués à l'administration. Est-ce que l'État français, l'administration française, est vraiment fondée à prendre en charge et en main la totalité de notre existence,
notre la vie, notre mort. La réponse est dans votre remarque.
Bien sûr.
C'est non.
C'est non. Je veux dire, on a confié aujourd'hui à l'administration notre vie, notre mort, nos enfants, notre éducation, notre travail, la façon dont la France est compétitive ou n'est pas compétitive, notre économie, notre environnement. L'administration française fait tout du sol au plafond. Il faut être très clair. Est-ce que c'est cela que les Français veulent encore après cette crise, où ils ont montré que d'une certaine manière, ils étaient meilleurs que l'administration française ? Et je ne parle pas des fonctionnaires individuellement, pour être très clair. Mais c'est le système administratif.
Le système. Pour le dépasser, justement, Sylvain Faure, vous tracez des perspectives. Vous en appelez à l'esprit gaullien, à savoir faire des circonstances même tragiques un moteur pour la nation. Mais qui peut endosser aujourd'hui le costume du général sans donner l'impression de flotter et de courir derrière son fantôme ?
Vous savez, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans cette période de confinement, déconfinement, on a changé de méthode au fil du temps. En 3 mois, on est passé d'un confinement très vertical, assez autoritaire, très, très centralisé, à un déconfinement qui est plus proche du terrain, qui fait confiance aux acteurs, etc. En réalité, la réponse, elle est là. C'est-à-dire que soit on considère que c'est une parenthèse qui va se refermer, que le déconfinement qui fonctionne parce qu'il fait confiance aux citoyens, c'est quelque chose qui n'aura pas lieu demain et qu'on va rendre à nouveau le pouvoir au centralisme jacobin à la française, soit on considère qu'on continue comme ça et qu'on réinvente en fait le fameux monde d'après sur cette base-là.
Ma question était personnifiée. Emmanuel Macron met régulièrement en avant l'héritage de De Gaulle, mais pour certains, le macronisme, c'est surtout une version marketing du gaullisme. C'est le vernis sans fond, sans âme. Que répondez-vous à cela ?
Moi, je pense qu'au fond, vous savez, ce qui est gaullien chez Emmanuel Macron, c'est son côté bonapartiste. Voilà, c'est le côté, on prend le pouvoir et on l'assume de façon très personnalisée.
Et dans l'exercice ?
En revanche, dans l'exercice, là où Emmanuel Macron n'est pas en réalité gaullien ou gaulliste, c'est qu'il est beaucoup plus libéral d'une certaine façon. Il est beaucoup plus gironde que ne l'étaient les gaullistes et le général de Gaulle lui-même. S'il réussit à affirmer ce côté girondin, décentralisateur, terrain, qui en effet n'est pas l'ADN du gaullisme, mais qui aujourd'hui fonctionne dans une société française
comme la nôtre. Qui n'est surtout pas l'ADN du macronisme.
Ah bah, le côté girondin, c'est l'ADN du macronisme. Toute la partie, au fond, émancipation individuelle, etc., c'est vraiment le propos de base.
Je parlais de la partie décentralisation. Davantage.
Ah, mais il faut en arriver là. Il faut vraiment en arriver là. C'est-à-dire qu'il faut que la part un peu, comment dirais-je, centralisatrice et verticale qu'on a vue depuis le début du quinquennat le cède maintenant à quelque chose qui était plus proche des promesses de la campagne, qui est quelque chose de plus proche
du terrain. Sylvain Faure, vous avez été dans le rappelle aux auditeurs du réacteur élyséen, dans l'équipe rapprochée du président de la République, plume, conseiller, le macronisme. Il est remis en question en ce moment et on le voit d'ailleurs à l'épreuve des municipales. Certains parlent d'une profonde de crise d'identité. Est-ce que vous pourriez le résumer, le macronisme, aujourd'hui ?
Assez facilement. Je pense que ce qu'on appelle le macronisme, au fond, c'est la conjugaison dans une action politique d'une certaine autorité de l'État et en même temps d'une sensibilité au terrain. Si, c'est-à-dire à la réalité individuelle ou des réalités que peut être une entreprise, que peut être une collectivité locale, etc. Si on ne réussit pas ce croisement là, qui est le macronisme, entre l'autorité de l'État et la seule vérité qui est la vérité du terrain, alors on sort du logiciel.
Mais où est la cohérence du macronisme quand au début du mandat, le macronisme se montre globaliste, vous êtes d'accord, post-frontière, et aujourd'hui, à la lumière de la crise, le macronisme se convertit à la souveraineté ?
Ça, c'est une excellente question. Moi, vous l'avez rappelé, j'ai écrit pour le président un certain
nombre de prises de parole. C'est surtout un grand écart. Hein.
Alors, la souveraineté aujourd'hui, c'est fondamental, c'est le mot-clé. Hein, de l'après. Cette souveraineté, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'elle est française, au sens où, effectivement, il y a les frontières, il y a la volonté de reprendre en main notre autonomie stratégique, et ça pose d'ailleurs énormément de questions pour après, et pas forcément des questions faciles. Ensuite, cette souveraineté, et là je citerai plutôt Angela Merkel quand elle parle de l'Allemagne, elle dit « l'Allemagne ne peut plus rien seule ». Mais la France ne peut plus rien seule non plus. Autrement dit, la souveraineté, c'est à la fois une souveraineté nationale, c'est-à-dire avoir les capacités de notre autonomie stratégique sur le plan, je ne sais pas, de la santé, évidemment, de l'énergie, de l'alimentation, etc., etc., de l'armée, de la défense, évidemment. Mais cette force, aujourd'hui, elle est confrontée, on le voit bien à travers la crise sanitaire, à des puissances qui nous surclassent de très très loin. Et donc, si on n'invente pas une coalition un groupe de nations qui partagent à peu près nos valeurs, nos priorités, nos intérêts, et qu'on trouve évidemment à nos frontières.
Reconnaissez, Sylvain Faure, qu'on peut être étonné de savoir que le macronisme se conjugue avec la souveraineté. Au départ, le macronisme, c'était des élites éclairées, c'était des élites universalistes, post-frontières, qui s'opposaient à ceux qui étaient décrits comme les Gaulois réfractaires, je mets des guillemets. C'était ça aussi, le macronisme, c'était cette fracture, cette rupture.
Je vous renvoie au discours du président de la République qu'on a appelé le discours de la Sorbonne, où il est très, très, très largement question de souveraineté,
que j'ai, comme
d'autres.
Non, je le dis au passage, je le précise.
J'ai écrit, co-écrit avec le président et avec les équipes de l'Élysée, il y a énormément question de souveraineté. Simplement, la souveraineté, ça ne peut pas être le repli aujourd'hui dans un monde où tout était interdépendant. Ne nous faisons aucune illusion. On ne va pas revenir à une France, à la France du général de Gaulle. Ça n'existe pas. Nous n'aurons pas demain sur notre territoire nous le savons parce que le monde est ainsi. Et nous n'aurons pas sur notre territoire les usines pharmaceutiques, les usines automobiles, les GAFA à la française. Nous ne les aurons pas. La seule chance que nous avons de les avoir, c'est de trouver des des alliances intelligentes avec d'autres puissances amies.
Au fond, je vous écoute depuis tout à l'heure. Sylvain Faure, je me demande pourquoi vous êtes parti. Pourquoi vous avez quitté le premier cercle des macronistes? Vous ne m'en faites que l'éloge depuis tout à l'heure.
Non, moi je ne suis pas là pour défendre.
Pourtant, vous avez été déçu. Vous êtes parti déçu.
Non, je ne suis pas là pour défendre une action politique. Je suis là juste sur le plan des idées et de la réflexion politique pour vous dire ce que j'en pense. Ensuite, moi, si vous voulez, je ne sais absolument pas comment tout ça va tourner. C'est-à-dire, je ne sais pas quels vont être les choix politiques
qui vont
être faits.
Vous ne savez pas si en 2022, Emmanuel Macron a ses chances?
Je pense qu'il aura ses chances, et de toute évidence, si pendant les deux prochaines années, il fait une politique qui est conforme à son logiciel profond. Voilà, et ça c'est la vérité. Si ensuite, cette politique ne se fait pas parce que des cordes de rappel diverses et variées empêchent, en effet, de rendre aux Français la responsabilité, leur destin, si j'ose dire, alors oui, ce sera difficile, parce que c'est ce que les gens veulent.
Merci Sylvain Faure. Au passage, le titre de votre livre, je l'ai retrouvé, c'est un discours. L'une des phrases du discours d'Emmanuel Macron en mai 2019, il avait dit « Je n'ai pas l'esprit de défaite, j'ai l'esprit de conquête ». Tiens, c'est peut-être un slogan de campagne à venir.
Espérons-le.
Peut-être. Merci.